Vous êtes bien sûr underscore à l'écoute de Radio Méga, vous savez, s'il y a bien une chose dont je sois sûr, c'est que nous finirons tous en numérique. Mais que deviendront nos données? Mon ami Blender fait toujours ce même cauchemar dans lequel il y voit des zéros et des 1, et même des 2, mais rassurez-vous, ce n'est pas encore la fin de l'histoire, ça commence même maintenant.
Mais non, Blender, c'était un cauchemar.
Oui, bonjour Emimam.
Bonjour Cécile, bonjour Matt.
Salut.
Alors, aujourd'hui, tel un entrepreneur, nous allons prendre le temps de vous évoquer un sujet sensible. Eh oui, la sauvegarde de vos données.
Effectivement. T'as fait un backup ?
Ah, j'ai fait un backup. Hein. Je swap dans ma checklist pour vérifier, effectivement. Mais tout de suite, nous allons passer pour de l'actualité en direct. Nous écoutons. Qu'est-ce qui se passe alors ?
Alors, on va faire du rétro là, dis donc.
Ah ouais,
alors, OpenVMS, bientôt porté sur x86. Ouais,
wow.
Cet OS très sûr qui a 40 ans et fait fonctionner des trains et des centrales nucléaires,
ah, oui.
Adaptation, hein, mais qui nécessite encore des matériels antiques, plutôt que de porter les applications qui sont sur cet OS sur du Linux, par exemple. En fait, ils vont porter l'OS sur les architectures Intel.
Ah.
Pour pouvoir juste remplacer le matériel et pas toucher aux applicatifs, parce que du coup, voilà, c'est sûr et tout, et on n'y touche pas.
Il vaut mieux.
Oui, pour une centrale nucléaire, il vaut
c'est
peut-être
clair.
Mieux. Sinon,
se passer de Google, c'est compliqué.
Et oui, journaliste d'Ouzbek Erika s'est dévoué pour tenter l'expérience pendant une semaine, et il nous raconte ça, et c'est pas triste.
Putain, mais c'est marrant, ça parlait de Contributropia. On a lu le même article. Et la présidente du CNN...
Le CNUM, c'est le Conseil National du Numérique.
Oh, elle a démissionné.
Oui, et puis ainsi que la quasi-totalité des membres qui l'ont suivi en protestation de la demande du gouvernement qui réclamait le départ de Rokhaya Diallo du Conseil du Numérique, justement. Parce que, voilà, ils disaient, machin, c'est, elle est un peu trop connectée, patati patata. Et donc, du coup, ils ont dit, mais qu'est-ce que de quoi il se mêle, le gouvernement? Et donc, ils se sont tous démissionnés en bloc.
Wow. Ah, sinon, ça se passe bien à San Francisco en ce moment.
Ouais.
Oui, donc il y a un robot chargé de chasser les SDF à San Francisco. Voilà, il était utilisé pour, je mets des guillemets, sécuriser le périmètre autour d'un refuge animalier. Donc en fait, les animaux, ils ont droit au refuge, mais pas les SDF.
L'IPv6 en France, c'est pas encore ça ?
Non, parce que Free, par exemple, est à 35% de couverture en IPv6. Orange est pas très loin derrière. Mais par contre, les deux autres, Bouygues Télécom et SFR, ils sont au-dessous des 1% quand même. Bon, sinon, il y a pénurie d'adresses IPv4 depuis 10-15 ans, mais bon, voilà.
C'est quand même impressionnant, hein, parce que moi, je vais te dire, par rapport à l'IPv6, ça date de plus de 18 ans, quoi.
IPv6, ça a 20 ans, ouais.
Ouais, donc, c'est ça. Et c'est toujours pas en place.
Non, parce que voilà, on s'en fout.
D'accord, l'explication qui en vaut une autre. Les objectifs de KDE pour 2018 dévoilés.
Oui, priorité sur l'utilisabilité et la productivité pour le logiciel de base, des logiciels pour protéger la vie privée, et faciliter l'arrivée des nouveaux contributeurs dans le projet. Donc ça, c'est les buts du projet KDE pour 2018.
Waouh ! Mais effectivement, nous allons passer à une petite pause musicale avec Wave Shaper de Under Space, avant effectivement de passer à notre sujet du jour sur sauver nos données, et puis après.
Et puis après.
Et puis après. Ah, une petite dose des années 80. Qu'est-ce que ça,
ça
fait du
plane.
Bien. C'est trop bien. Donc Waveshaper, un of space. Voilà pour notre petite pause musicale. Et tout de suite, nous allons passer à notre sujet du jour, qui effectivement sauver nos données. Et puis après, effectivement.
C'est ton sujet du jour, ça, en plus.
C'est mon sujet. C'est
celui que tu as fini, que tu as bouclé jusqu'au bout, parce que tu as pris la bonne résolution pour l'année 2018 de finir tes
oui,
sujets complètement.
Oui, à 19h30. Oui. Alors que j'étais en train de me dire, mince.
Vieux motard que j'ai. Non, c'est pas ça.
Oui, voilà, mais effectivement, ça fait partie des sujets intéressants et importants à évoquer chez Radio Méga. Et
oui,
aussi pour Underscore aussi. Parce
faire
que
des backups.
Faire des backups et qui tiennent. Parce que c'est vrai que Radio Méga a été victime aussi l'an dernier, hein, malheureusement. Mmh. Ils ont perdu toutes leurs émissions.
Parce qu'ils ont fait une mise à jour du logiciel qui a foiré et que donc ça leur a pourri toute leur sauvegarde, toutes les données. Et ils n'avaient pas de copie.
Ouais, c'est ça, c'est plus d'une mise à jour, c'est du formatage.
C'est ça.
Ah, c'était effrayant. Mais bon. En dehors de ce petit problème, dans la préhistoire de l'informatique, je vais revenir un petit peu à faire mon petite rétrospective un petit peu de tout ça pour essayer de vous expliquer un petit peu, vous mettre dans l'ambiance et tout, un peu scientifique. Donc dans la préhistoire de l'informatique, il existait des machines capables d'exécuter des programmes sauvegardés dans des cartes perforées.
Ouais.
Depuis, l'informatique a bien évolué. Bien que l'ordinateur comprenne de base que un bit est soit un 0 ou un 1, une réponse oui ou non. Hein.
Bah, c'est la seule chose qui s'est traitée. Hein,
et non pas un 2, hein, comme dans le cauchemar de Blender.
Alors c'est Bender, il n'y a pas le L.
Ah oui, on va...
Blender, c'est un robot tordeur, c'est pas un robot mixeur.
Elle était belle. Elle était belle.
En fait, bit, c'est la contraction de binary digit.
Yep, avec l'accent.
Et voilà. Et donc, dans les unités de mesure, on entend aussi le mot byte. Avec l'accent anglais, hein, byte. Donc, un byte, c'est un octet,
en
soit
français.
8 bits. Ça vous rappelle quelque chose, 8 bits, la musique 8 bits, enfin, les ordinateurs 8 bits et tout.
Ouais.
Enfin bon, l'informatique, c'est un peu comme la cuisine, hein. Je ne vous parlerai pas plus que ça, mais effectivement, vous avez des unités de mesure, donc pour la taille de vos données. Donc, partant de l'octet, du kilo-octet, du méga, du téra, du péta, etc. Toujours est-il que lorsque vous regardez vos informations sur vos fichiers, qui sont dans vos disques durs en général, vous avez ce type d'informations accessibles et qui vous permet aussi de vous rendre compte de la taille que fait vos fichiers. Hein. Oui. Donc en fonction du support de stockage, un disque dur, une carte mémoire, une clé USB, vos données prendront un peu plus ou moins de la place hein, dedans. Tout dépend effectivement. Effectivement, quand tu regardes un octet, ça fait 8, un kilo octet, ça fait 1024 octets.
Alors ça dépend.
Alors, vas-y.
Alors, ça dépend, c'est un peu compliqué. Parce que au départ, il y en a qui ont dit oui, parce qu'en fait, 1024, c'est presque 1000. Et c'est plus simple, hein, d'un point de vue informatique, de compter 1024. En fait, c'est une puissance de 2. Mmh. Et puis, il y en a qui ont dit ouais, mais non, en fait, ça doit être 1 kilo, c'est 1000, comme pour tout le reste. Sauf que, bon, je suis désolé, moi, je prendrai le kilo à 1000 quand les US passeront au système métrique. Et c'est pas pour tout de suite.
Waouh, c'est un vrai débat, ça.
Et c'est un vrai débat, ouais. Donc du coup, il y a les Kibi, qui machin, Kibi.
Oui,
octet,
j'ai vu ça, oui.
Donc ça, c'est la version 1024 officiellement. Mais bon, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que suivant, si vous mettez une clé USB dans un autre ordinateur et il dit qu'il n'y a pas la même place restante, ou elle ne fait pas la même taille, parce que ou, les disques durs, pareil, où on vous vend des trucs à 2 gigas, en fait, ça fait 1,8 ou un truc comme ça, parce qu'en fait, ils ne comptent pas de la même façon.
D'accord, oui, non, c'est sûr que voilà, c'est un problème métrique, des fois.
Ouais.
Je ne vous raconterai pas quand je me trompe entre les centilitres et les décilitres pour une recette d'un gâteau familial. Oh, ma grand-mère va se retourner dans sa tombe si je lui parle que j'ai raté mon phare.
Bon, ceci dit, il était très bon, ton gâteau au chocolat.
Ça, oui, bah oui. Mais bon, c'est vrai que... Cela reste un problème de taille. Hein,
c'est le cas de le dire.
bien sûr. Et dans une époque où l'optimisation reste secondaire, hein, je ne parlerai pas de la dernière démo ST faite sur Atari et qui ne tient absolument pas sur une disquette. Hein, 60 mégas. Désolé, mais là, non. Hein. D'ailleurs, je fais un coucou à Strider hein, qui m'a fait profiter d'avoir vu cette démo en vrai sur... sur un vrai Atari ST, mais qui était effectivement avec une carte mémoire d'aujourd'hui.
Avec une carte SD qui émulait un lecteur de disque dur, enfin un disque dur, quoi.
Voilà.
Pas juste une disquette.
Alors effectivement, dans les supports de stockage de nos données, vous avez effectivement les bandes magnétiques hein, qui existent depuis très longtemps.
Oui, alors ce soit les cassettes audio standards comme les bandes magnétiques vraiment spécialisées pour les archives dans les grandes entreprises. Hein. Ça reste la même idée.
D'ailleurs, on m'a soufflé l'info comme quoi ça pouvait presque durer 60 ans, comme quoi... Hein. C'est assez fiable dans le temps. Hein.
Oui, si on ne coupe pas, si on ne tire pas sur la bande et tout, qu'on ne fait pas des nœuds avec, normalement, ça va.
Il y a aussi les disquettes, les fameuses disquettes, hein, pour les enfants qui ne connaissent pas. C'était des petits supports en plastique qu'on insérait dans des lecteurs.
Mais la seule chose que les enfants connaissent des disquettes, c'est le bouton sauvegarder sur ordinateur, en principe.
Ouais.
Ah, oui,
mais ça, c'est resté, ça a persisté.
Ben oui, c'est des symboles qu'on voit effectivement qui datent d'avant.
Les jeunes, ils savent pas ce que représente le bouton sauvegarder.
Génial.
C'est une disquette.
Ah ouais.
Mais
ils savent pas ce que c'est.
D'ailleurs, la disquette, l'intérieur, c'est un disque souple. C'est rien
c'est
à voir avec une bande magnétique.
C'est magnétique.
C'est juste une bande magnétique, sauf que au lieu d'être présentée sous forme d'une bande très longue et enroulée, ben en fait c'est.
Ouais, donc
c'est
la disquette, elle rentre quand même dans le cadre de la bande magnétique.
T'as jamais ouvert une disquette?
Ben justement, si.
Ah. Ouais, la différence, c'est qu'en fait, une cassette, en fait, c'est la bande qui défile par rapport à la tête, et en fait, ça va que dans un seul sens, alors que sur la disquette, en fait, il y a la disquette qui tourne, et puis il y a la tête qui se balade aussi, voilà. Et donc il y a plus d'occasions de rayer le support, etc., donc c'est un peu plus fragile.
Ah oui, et puis c'est hyper fragile, hein. Tu faisais tomber ta disquette en cours de techno, t'avais mal, hein.
Ou alors, t'ouvrais le clapet, tu mettais les doigts sur le support.
Ah, puis en plus, oui, c'était sympa. Il y avait les disquettes 1,44 mégas, c'était les disquettes haute densité. C'était les disquettes HD. Parce que normalement, les disquettes, c'était 720 kilooctets, quoi.
Et après, c'est vrai que le support de disquette est tombé en désuétude parce qu'effectivement, avec l'évolution de nos ordinateurs, les données commençaient à prendre de plus en plus de place. Et quand tu devais avoir un logiciel sur plusieurs disquettes, ça commençait à devenir chaud.
Windows 3, c'était 5 disquettes. Après, c'est...
Ouais, voilà. Je te dis pas après la quantité de disquettes qu'il te fallait quand tu as acheté des licences dessus.
Et après, on a fait des disques durs. On a mis des plateaux un peu moins souples. C'est pour ça qu'ils étaient durs. On a plus de disques durs. Puis on en a empilé plusieurs couches avec plein de têtes au milieu, mais ça reste le même principe. Hein. Puis après, il y a eu le CD.
Eh ben oui, le CD et le DVD, mais aussi, il faut dire qu'il lui existe un petit peu mal aussi. Au bout de 10 ans, certains commencent à avoir quelques signes de faiblesse.
On pensait que c'était le support du futur, et puis en fin de compte, on se rend compte maintenant que les CD, ça vieillit très très mal.
Ouais. Alors la difficulté quand tu veux sauvegarder tes données, c'est qu'effectivement, quand tu as ce genre de support, il faut bien noter que tous les 10 ans, il faut que tu retournes, et puis il faut savoir aussi
même
lire.
Même avant, ouais. Alors il y a des solutions, hein. On peut graver à côté, par exemple sur pour un DVD, on peut graver un CD à côté avec des informations de correction d'erreurs. Et donc s'il y a des erreurs sur le DVD, on peut arriver à rattraper avec un logiciel spécialisé, des choses comme ça, pour arriver à faire une copie. Mais il faut régulièrement, normalement, il faudrait faire des copies sur un nouveau support et tout. Le problème, c'est qu'effectivement, les CD, c'est certes, c'est du verre ou du polycarbonate, ça ne vieillit pas trop, mais il y a une couche de métal en plein milieu et tout, qui est très fine, qui s'oxyde, etc. Donc l'humidité,
lumière,
tout ça,
ouais.
Voilà. En plus, la lumière, les CD réinscriptibles, quand on nous disait que les CD, ça durerait 100 ans, c'était les CD pressés. Mais maintenant, ça se fait plus, les CD pressés, c'est tout des trucs gravés. Donc ça aime pas la lumière non plus.
Eh oui, et donc effectivement, comme tu disais, les disques durs aussi sont venus là aussi pour nous aider à supporter le stockage. Hein. Effectivement, par contre, il paraît que la durée de vie moyenne d'un disque dur, c'est entre 5 et 7 ans.
Ouais, ça dépend. Ça dépend si on s'en sert 24 heures sur 24 ou pas, si etc. Ouais.
Après, hein, si jamais tu tombes en panne, moi je connais quelqu'un. Il s'appelle Chronodisc. Coucou Imre.
Coucou Imre.
Qui peut te sauvegarder tes données, et qui sont très gentils. Ils sont sur Paris et même au Canada.
Ouais, parce que les disques durs, du coup, il y a plein de pannes possibles. Soit c'est la carte contrôleur qui lâche, soit c'est la tête qui est tordue, soit c'est le plateau qui est rayé. Enfin, il y a parfois moyen de récupérer des données, ça coûte plus ou moins cher suivant les cas, mais bon, c'est encore possible en général d'arriver à récupérer des trucs.
Ouais, enfin le piège du truc, c'est que on a tendance à augmenter encore et encore la taille des disques durs, et plus on stocke de données,
on trouve
plus
toujours
on est susceptible
des trucs
d'en
dedans.
Perdre encore plus d'un coup, quoi. Le jour
c'est
où
sûr.
Toutes tes données sont sur un seul disque dur et qu'il te lâche,
tu perds tout.
Mais voilà. Justement, hein, le principe aussi, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc,
oui,
veut dire jamais sans deux copies au minimum.
Au moins.
Alors après,
il y a des systèmes comme les RAID qui permettent d'avoir des trucs, des copies automatiques sur deux disques durs, etc. Comme ça, s'il y en a un qui lâche, il y a le truc qui dit attention, il faut changer celui-là.
Oui, en système RAID, ouais.
Mais bon, ça faut reste s'y connaître, quoi. Aussi. C'est, tout le monde ne sait pas faire. Et...
Alors après, tu as aussi les mémoires flash. Alors les mémoires flash, tu en as aussi dans les clés USB, par exemple. Mm. Leur capacité est parfois un peu plus grande. Aussi, l'accès aux données est beaucoup plus rapide. On voit certains avantages dans ce niveau-là.
Par exemple, coûte plus cher, par contre, que les disques durs à taille équivalente. Mais,
Par contre, au niveau de la durée...
En fait, c'est des circuits électroniques, donc il n'y a pas de partie mécanique dedans.
Ouais.
Donc ça, c'est bien, tu peux la tomber par terre si tu roules pas dessus, si tu détruis pas le circuit imprimé, tout ça.
La quantité de fois où j'ai niqué une clé USB comme ça en la faisant tomber...
Alors après, si ça se dessoude ou s'il y a des trucs qui cassent, mais normalement, sur juste un petit choc, ça craint moins. Par contre, c'est ce qu'expliquait justement Imre de Chronodisc dans une conférence à une certaine alchimie, c'est que les mémoires flash, quand ça pète vraiment et on perd tout d'un coup. Contrairement au disque dur où des fois, il y a des secteurs défectueux et on peut récupérer tout le reste parce que ça marche encore. Des fois, souvent, la mémoire flash, on ne sait pas comment c'est fait dedans, on ne peut pas récupérer quoi que ce soit parce qu'il y a le contrôleur qui lâche. Et là, s'il prend une surcharge et tout, il y a tout qui part d'un coup. Donc, voilà quoi.
Donc, ce n'est pas le meilleur support de stockage. Après, effectivement, on peut sauvegarder aussi nos données sur les clouds.
Oui, mais le cloud, c'est juste l'ordinateur d'un autre.
Et voilà, c'est l'ordinateur d'un autre. Effectivement, il existe des tas d'offres commerciales. J'ai entendu Box, Dropbox, OneDrive, Google Drive. Ouh là là, ça fait beaucoup de... GAFAM, tout ça. Il y a aussi iCloud, pour ne pas citer. Toi, tu dois dormir.
Non, c'est vrai.
Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que son téléphone vient lui dire « C'est l'heure de dormir !» Mais non, en fait, on est en plein midi 15.
Donc, c'est le décalage horaire.
Oui, voilà, c'est le lag. Donc, il faut voir aussi qu'il y a des solutions, effectivement, pour externaliser la sauvegarde avec les clouds. On peut le faire assez facilement maintenant aujourd'hui avec Internet qui est assez rapide.
Avec un cloud donc plus ou moins souverain.
Voilà. Éthiquement parlant, je me demande si c'est pas encore un bon moyen de se faire de l'argent sur nos données.
Oui, c'est sûr que c'est plus facile d'indexer des données quand elles sont dans ton serveur que sur les machines de tes clients.
Et c'est sûr, comme les géants du web qui sont soumis au Patriot Act. Qui font régulièrement parler d'eux en termes de fuite de données et de violation de la vie privée. Hein.
Mais du coup, il y a des clouds qui sont un peu plus respectueux de la vie privée. On vous a déjà parlé des chatons, par exemple.
Comme... Mais bien sûr.
G3L, hein. Coucou G3L.
Salut. Mais vous avez aussi des solutions comme le NAS.
Ouais.
Le NAS ou FTP, hein, en fait, c'est juste une machine qui fait ce serveur FTP. Ça peut être aussi bien de chez toi, où tu peux acheter carrément une machine qui est... appelé NAS, en fait, c'est un ordinateur.
C'est un ordinateur, même souvent sous Linux, tu mets un disque dur dedans et en fait, ça fait serveur de fichiers et tu peux...
Ouais, et puis tu as accédé sur toutes les machines que tu as chez toi, tu peux accéder directement dessus. Et c'est vrai que ça, tu peux aussi installer un cloud privé avec ça.
Ouais, il y a Cozy Cloud par exemple, ou il y a Own Cloud aussi qui peut s'installer. Même sur certains NAS, il y a déjà des applications où tu peux choisir les applications que tu installes, serveur FTP, serveur Samba et tout. Et il y a même Cozy ou d'autres qui sont packagés. Tu dis, je veux installer ça et ça te l'installe pour toi, effectivement.
Ouais, tu stockes tes données sur un serveur, mais un seul serveur du coup. Et si jamais il te lâche, tu perds.
Justement, tu peux avoir des serveurs NAS qui sont avec des disques durs en RAID. Ça veut dire. Qui sont avec des systèmes qui te permettent que si jamais un de tes disques durs tombe en panne, t'as d'autres qui prennent le relais ou qui te l'indiquent et à ce moment-là, tu peux récupérer tes données.
Le RAID, ça permet effectivement de faire un mirroring automatique des données. Il y a plusieurs types, soit il y a soit c'est juste distribué sur les disques, soit il y a des redondances, etc.
Oui, donc
ça permet quand même de... Et en général, il dit attention, il y a le disque qui est en train de lâcher, il faut vite le changer. Et il va recopier automatiquement la copie sur celui que tu viens de réinsérer. Faut pas se tromper.
Alors effectivement, pourquoi on vous a parlé de ça, de sauvegarder vos données? Parce qu'effectivement, la grande mode d'aujourd'hui, et ça c'est de plus en plus répandu, vous avez les ransomware.
Ouais, rançongiciels.
Oui, les rançongiciels qui prennent en otage vos données. Et comme on l'a vu à la télé récemment, hein, où un pirate avec un sweat à capuche expliquait comme quoi il arrivait à récupérer les données des gens, enfin à les loquer. Allez.
Toi, t'as regardé France 2, toi.
Ouais, j'ai regardé France 2, mais toi, tu tweetais en même temps, hein. Je t'ai vu. Je t'ai vu sur Twitter, tu tweetais en même temps. J'ai fait, ah, toi aussi, tu regardes la télé.
Ouais, parce que j'attendais un peu mieux d'envoyer spécial que le cliché habituel. Mais bon.
Ouais, c'est vrai que là, c'était vraiment cliché. Sachant qu'en plus, le mec là qui habite en Arabie Saoudite, je crois, et qui aurait sauvé la France.
Ah oui, enfin, même pas que la France, vous voyez l'autre, effectivement. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ce soit lui qui ait fait tout, mais bon.
Ouais, ouais. Non, mais franchement, ouais. C'était abusé. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Prenez le soin de faire des sauvegardes dans différents supports. Et surtout, effectivement, à ce niveau-là, voilà, je veux dire, aujourd'hui, vous changez d'ordinateur, vous perdez vos données. Ça peut être sensible, surtout si vous êtes une entreprise. Voilà, il faut prévoir cette démarche, quoi.
Et pas au même endroit, si possible, la sauvegarde. Surtout si c'est des données précieuses. Il faut pas... Si la maison brûle, il vaut mieux que la sauvegarde soit ailleurs.
C'est sûr. Comme maintenant, avec les clouds, c'est beaucoup plus facile, quoi. Mm. Mais vous avez aussi des supports de stockage qui sont vers le futur. Vous avez effectivement le quartz. Donc apparemment, des scientifiques du laboratoire Hitachi ont de leur côté conçu un support à base de quartz. Ouais. Et la durée de stockage peut atteindre des centaines de millions d'années. Hein. Cette technologie devrait d'abord être réservée aux entreprises, mais finira par être commercialisée selon Hitachi. Mmh. Donc voilà, alors que l'histoire nous apprend que les supports de stockage les plus anciens étant la pierre, le papier...
On retourne au basique. Hein.
Un petit peu au basique, quelque part. Nous sommes passés à une mode de lecture bien plus volatile, avec le risque de tout perdre. Et effectivement, la question de savoir, c'est au niveau... bien plus que la question qui se pose dans toutes ces sauvegardes, c'est une question beaucoup plus profonde, beaucoup plus deep, quelque part. C'est que faut-il croire que notre société sera toujours en capacité de lire ce que nous avons stocké numériquement dans le passé ?
Ouais, parce que là, on vous a juste parlé des supports, mais il y a tout plein d'autres trucs au-dessus. Il y a les formats de fichiers propriétaires qui, déjà, à quelques années, on ne sait plus si on saura les lire. Il y a tout plein d'autres trucs comme ça.
Alors effectivement, hein, survivrons-nous donc face à ce genre de choses et face à la perte de données ? Mais finalement, il y a une chose à savoir, une bonne nouvelle quelque part, c'est qu'il y a quelque chose quelque part comme un Graal de sauver... Un Graal pour sauver nos données, parce que la solution est en nous. La solution, c'est l'ADN.
Ouais.
Tout simplement, la sauvegarde de notre humanité grâce à notre ADN, elle serait capable de pouvoir être un nouveau support de stockage et on pourrait conserver nos informations. Et là, tu vois, t'imagines un peu quand tu vois l'insecte.
Et génétique, c'est une chose, mais le jour où tu pourras stocker tes photos de vacances dans ton ADN, on en reparlera. Quoi.
Alors, il y a des chercheurs qui ont quand même montré, enfin, qui ont fait des essais, ils arrivent à stocker des trucs dans l'ADN. Le seul problème, c'est la lecture après. Si vous passez. Si pour l'instant il faut passer 3 mois à réindexer, enfin à relire l'ADN, c'est un peu gênant juste pour récupérer ton bouquin ou tes photos.
Ouais, non,
vacances,
mais ça n'empêche que voilà, c'est une solution qui peut vivre.
Mais il y a des recherches en cours. Ouais.
Dans des bonnes conditions, tu imagines l'insecte emprisonné dans de l'ambre, voilà, je veux dire, même de l'ADN qu'on a retrouvé comme ça dans la nature, la nature a sa propre solution pour se sauvegarder, alors pourquoi pas s'en inspirer effectivement et récupérer.
Jurassic Park, c'était le truc, et là où ça se rapproche effectivement de ce qu'on disait par rapport à l'informatique, c'est que c'était des données fragmentées, comme sur un disque dur, il pouvait récupérer certaines données, mais pas toutes, et du coup, il est complété avec des ADN de reptiles actuels, comme nous, aujourd'hui, on pourrait compléter les données manquantes par des données...
Oui, parce que l'ADN se dégrade quand même un petit peu, donc du coup, il se fragmente, et donc il faut reconstituer, savoir dans quel ordre on remet les trucs, ouais, effectivement.
Et ouais. Mais voilà quelques petites pistes, hein, et quelques éclaircissements sur ce sujet qui était très important, je trouve.
Je pense qu'il faudrait qu'on en reparle, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui, ouais. Je pense aussi. Et nous faisons une toute petite pause musicale avant de nous retrouver pour l'agenda et l'astrologique. You. Voilà, un truc bien sympa qui te met dans l'ambiance, mais tout de suite passons à l'agenda.
Ça fait un peu bizarre parce que ça passe de gauche à droite dans le casque.
Ah oui, oui, mais voilà, mais ça fait danser, donc c'est ça qui est sympa. Le clip est très joli à voir aussi, je trouve. Et passons effectivement à l'agenda. Et alors, qu'allons-nous faire cette semaine au Moulin Digital ?
Alors, une heure pour découvrir la formation avec Internet. Donc, en surinscription, Internet a bousculé la manière d'apprendre et de se former en démocratisant la formation à distance avec les MOOC, hein, c'est les cours massivement ouverts en ligne. En développant la dimension de partage et d'échange entre les apprenants, en prenant de nouvelles manières de se former avec l'émergence d'écoles inspirées des changements apportés par Internet. Et donc, une heure pour comprendre ces nouvelles manières d'apprendre en ligne et hors ligne. C'est le vendredi 19 janvier de 9h à 10h30. Ouais, du coup, c'est une heure, mais c'est de 9h à 10h30. Hein. C'est logique. Voilà. Il doit y avoir une logique là-dedans. Donc, c'est au Moulin Digital, 8 avenue de la Gare à Alixan.
Ouais, et puis il y a une install party Mona Libre.
Oui, donc ça c'est avec mon ami Philippe, que vous avez déjà entendu, qui était venu nous parler de monnaie locale. Et là, ce coup-ci, on parle monnaie libre, c'est encore autre chose. Donc c'est le mardi 23 janvier de 18h à 21h à la Forge Collective 8 rue Baudin à Valence.
Wow.
Et donc on vous parlera des monnaies libres, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment installer tous les logiciels qui permettent de l'utiliser, hein, comme d'Unitaire et tous les clients d'Unitaire. Et voilà, c'est à la Forge Collective.
Waouh. Et alors maintenant, nous allons regarder. Attends, je frotte la boule. Qu'est-ce que tu vois dedans ?
Qu'est-ce que j'y vois dedans, gamer ? J'ai encore pris de bonnes résolutions cette année en 1080p.
6 admins. On est parti en rando, mais j'ai pas su lire la carte SD.
Libriste. Et toi, tu fais partie de la franc-maçonnerie ?
Old school. T'as plus le RTC ? Ton modem 9600 boud ?
Technophile. T'as pas la 4G ? T'as un débit d'OB ?
Offline. C'est irlandais comme nom, ça.
C'est de nos lives.
Et ben voilà, nous allons nous sauver sur ces derniers petits mots. Sauvons-nous, parce qu'effectivement, on a encore débordé.
Donanoble a quitté la bibliothèque. Donanoble a été sauvé.
Génial! Voilà, on vous dit à très bientôt sur Radio Méga et à très bientôt, Matt. À très bientôt, François. Bye bye!
À bientôt, bye bye. Ciao!